Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6. Alors le chapitre 6 marque un tournant, marque une transition dans tout le poème que nous lisons depuis quelques semaines. Nous allons prêter attention à quelques détails, mais nous allons nous apercevoir qu'il y a des changements de ton. Les filles du harem vont changer de ton, la Sulamite va changer de ton, Salomon va changer de ton également. On arrive vraiment à la transition. Hein. On se rappelle, c'est un poème qui est tourné sous la forme d'un jeu scénique. Donc il y a forcément l'histoire, mais il y a aussi tous les alentours qui prennent en compte la présence de l'auditoire qui est là normalement censé écouter et comprendre. Et là, on arrive vers la fin. À la fin du Cantique des Cantiques, on arrive au chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8 est très particulier parce que c'est un peu une sorte de c'est plus vraiment l'histoire, chapitre 8. Le chapitre 8 donne des leçons un peu à de l'année comme ça. Donc on arrive vraiment là, vers la fin de l'histoire et le chapitre 6 permet de faire une transition. On avait terminé le chapitre 5, on avait terminé avec la description que la Sulamite fait du bien-aimé. Et on avait surtout terminé et mis en évidence que cette description est la parfaite description du Seigneur Jésus. Mais lisons tout de suite le chapitre 6 dans son entier. Donc ce sont les filles de Jérusalem, donc les filles qui composent le harem de Salomon, qui prennent la parole et qui disent « Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé ? Et nous le chercherons avec toi. » La Sulamite répond. « Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Salomon prend la parole. « Tu es belle, mon ami, comme Tirsta, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donnera le jour. Oh, les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Ah, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. La Sulamite prend la parole. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si le grenadier fleurisse. Je ne sais. Comprenez que dans cette expression, c'est « je ne sais, je ne comprends pas ». Il y a quelque chose qui me dépasse. Mais mon cœur m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Amen. Alors, la prise de parole des filles du harem suit la description que la Sulamite avait fait de son bien-aimé et qui se terminait par ces mots. Toute sa personne est pleine de charme. Voilà. Donc la Sulamite avait fait une description de son bien-aimé et les filles, quand elles entendent la description du bien-aimé, on s'aperçoit qu'elles commencent à changer de langage. Je vous fais un rappel. Au chapitre 1er, les filles du harem répondaient avec ironie à la Sulamite. Elle lui disait qu'elle était ignorante, simplette, a préféré vivre dans la condition de vie d'un berger plutôt que de vivre au palais. Rappelez-vous, le premier chapitre, les filles la prenaient un peu de haut, ils disaient « Mais attends, mais ouvre les yeux, tu vois pas le privilège que tu peux avoir là ? Qu'est-ce que t'as là ? À espérer autre chose ?» Et puis, après, au chapitre 3, la Sulamite leur avait même demandé aux jeunes filles de se taire. C'est là qu'elle a dit « Oh !» Silence. Au chapitre 5, quand les filles du harim ont commencé à voir combien la Sulamite restait fidèle à son bien-aimé, comment elle repoussait le roi Salomon, elles ont commencé à se demander et à lui demander « Mais en fait, qu'est-ce qu'il a de plus, ton bien-aimé, par rapport aux autres ?» Elles commençaient déjà à évoluer dans leur réflexion. Elles disaient « Mais tu refuses le roi, mais qu'est-ce qu'il a de plus, ton bien-aimé, par rapport aux autres ? Et surtout, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus pour que tu demeures fidèle ? De plus que le roi ?» Et là, les filles commençaient à répondre. Et c'est là que la Sulamite a répondu. « Voilà comment elle est, voilà comment elle est. » Et à la description du berger, voyez-vous comment répondent les filles ? Mais de quel côté est parti ton bien-aimé ? Nous le chercherons avec toi. » Là, elles prennent conscience que l'amour que la Sulamite a pour ce bien-aimé vaut la peine. Elles sont en train de réaliser que l'amour du bien-aimé vaut beaucoup plus que l'amour de Salomon. Elles réalisent que la personne du berger est bien plus aimable que la personne de Salomon. Et quelque part, maintenant, elles voudraient également pouvoir aider la Sulamite à retrouver son bien-aimé. Alors elle lui propose de le chercher. Elle propose de chercher son bien-aimé avec elle. Alors, on se rappelle, on est dans un cadre scénique, parce que objectivement, est-ce que vous pensez sincèrement que les femmes du harem, dans le palais, vont commencer à sortir dans les champs, aller chercher un berger ? On comprend bien que non, c'est pas possible. Concrètement, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation ? En fait, ce texte justement veut révéler et expliquer le sentiment changeant de ces jeunes filles qui commencent à compatir et à s'amadouer et également à s'affectionner à cet amour pur qui est dans le cœur de la Sulamite et de son bien-aimé. Et puis surtout, par ce changement de langage, on est en train de comprendre que le scénario était en train de changer. On est en train de changer. Jusqu'à maintenant, on sentait de plus en plus la situation oppressante. Mais là, justement, par le langage qui commence à changer de la Sulamite, notre propre esprit est en train de dire « Mais tiens, c'est bizarre, ça change. » On est en train de prendre un nouveau chemin. Effectivement, c'est celui du dénouement. Alors, la réponse même de la Sulamite est très bizarre, énigmatique, irréaliste. Pourquoi ? Parce que à la question « Où est ton bien-aimé ?», elle dit « Oh, mon bien-aimé, il est parti avec le troupeau, il est allé faire paître les moutons dans le jardin. » Est-ce qu'on va faire paître des moutons dans un jardin ? Non. On les fait paître dans la montagne. D'ailleurs, c'était tout le langage qu'elle avait. Il est sur les collines, dans les montagnes, elle parlait de liberté. Et là, la réponse de la Sulamite est bizarre. « Mon bien-aimé, il est descendu au jardin ?» pour faire paître les troupeaux. Je dis, non, là, il y a quelque chose qui cloche. Effectivement, elle reste un peu dans cette notion-là. Pourquoi est-ce que la Sulamite parle comme ça ? Elle aussi, son langage est en train de changer. Avant, son bien-aimé était au loin, et elle espérait y retourner. Il est sur les montagnes, j'irai le rejoindre, etc. Mais en fait, là, elle fait un jeu de mots. Elle dit que effectivement le troupeau est avec le bien-aimé, ça, c'est une évidence. Mais rappelez-vous, qui est appelé le jardin ? La Sulamite elle-même. C'est elle le jardin. Et donc elle est en train là de dire, elle est en train de parler de leur retrouvaille qui est proche. Mon bien-aimé avec son troupeau va venir dans son jardin. Elle est en train, déjà là aussi dans son langage, elle est en train de dire on va bientôt se retrouver. Ça y est ! Elle utilise les mêmes expressions pour signifier que leur association qui est très proche. Et d'ailleurs, ce changement de ton est aussi à rappeler et confirmé par cette belle phrase « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Alors, on ne va pas développer cette pensée-là tout de suite, mais ayez la curiosité parce que cette phrase-là « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, il fait paître son troupeau parmi les lys », en fait, ce n'est pas une nouvelle phrase, c'est une phrase transformée parce que dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, et verset 16, elle avait dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, il fait paître son troupeau parmi les lys. Et donc on sent qu'il y a une évolution dans le langage, mais comme on n'a pas fini, parce qu'elle va réemployer au chapitre 7 ou 8, je ne sais plus, la même expression, et qu'elle va encore modifier, donc on aura l'occasion de voir justement ce développement, ce changement de langage qui se fait progressivement dans le texte. Alors Salomon, ne désespère pas. Ils essayent encore là, de venir la conquérir, il vient encore avec ses beaux mots, mais là aussi, dans le... Déjà, vous avez vu combien la semaine dernière, Salomon était bien plus provocant dans ses manières de faire, on sentait une excitation, même charnelle. Et là, vous allez voir, il change de langage, il essaye encore de gagner le cœur de la Sulamite, mais vous allez voir que lui-même, il commence à défaillir, lui qui était là... En grand roi conquérant, il commence à montrer des signes de faiblesse et même de maladresse. Mais à quoi on voit ça? Alors il commence déjà par des éloges. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem. Je ne sais pas quoi on pourrait dire. Peut-être que ce qu'on pourrait dire en France, oh, tu es belle comme la Côte d'Azur et tu es glorieuse comme Paris. Pourquoi parler de ça? Parce que quand on passe à Paris, on a une certaine image de Paris, les lumières, là, et quand on pense à Côte d'Azur, on a une autre image. Et bien c'est exactement ça. En fait, Tirsa et Jérusalem étaient considérées comme les plus belles villes d'Israël. Et plus tard même, pas au temps de Salomon, mais après justement, Salomon, après, vous savez que le royaume d'Israël va être divisé en deux, avec le royaume du nord et le royaume du sud. Et Tirsa sera choisie comme ville royale pour le royaume du Nord et Jérusalem restera la ville royale pour le royaume du Sud. Donc, il est en train de dire, voilà, tu es belle comme ces deux villes, évoquant la beauté de ces villes qui seront des capitales régionales. Il y a aussi une signification dans les mots, parce que Tirsa signifie grâce et charme. Voilà, donc il joue avec les mots, tu es belle mon ami, si on devait traduire comme la grâce, comme la charme. Et Jérusalem signifie fondement de la paix. Alors, on le comprend mieux. Et effectivement, ça confirme les éloges qu'il avait déjà faits sur sa personne. Mais ça justifie aussi le petit mot. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais... Conjonction de coordination... Et souvent, quand on commence à dire « mais » dans la phrase, c'est comme si on minimisait ce qu'on venait de dire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, tu es belle, ah oui, tu es incroyable, mais tu es terrible. Ah bon? Pourquoi je suis terrible? Tu es terrible comme des troupes sous leur bannière. Si on pouvait le rendre en français plus courant, on dirait « mais tu es terrible parce que tu es résistante comme un corps d'armée au combat. » Voilà. Les troupes, c'est l'armée, sous la bannière, c'était sous les étendards où les guerriers allaient à la guerre. Donc il dit, oh oui, tu es belle, tu es gracieuse, mais t'es terrible, parce que tu résistes, comme une armée qui est au combat. Mais oui, c'est là que je vous disais que Salomon sentait le combat un peu difficile pour lui, et il semble qu'il n'a pas beaucoup rencontré de résistance dans ses conquêtes féminines. Mais là, il sent bien que depuis le temps qu'il essaye de la conquérir et toutes les fois qu'il l'a repoussée, il dit vraiment, t'es terrible, toi. Vraiment, t'es comme un corps d'armée au combat. Je n'arrive pas à te déstabiliser. Et d'ailleurs, non seulement il n'arrive pas à la déstabiliser, mais c'est lui qui est complètement déstabilisé. Lui, le roi, c'est ce qu'il dit au verset 5. Détourne de moi tes yeux, car il me trouble. Vous vous rendez compte? C'est le roi lui-même qui commence à être gêné, d'être dans la présence de la Sulamite. Il sent, non pas de... Alors, on avait déjà vu, vous savez, quand il avait décrit la Sulamite, il a dit qu'elle a le cou droit comme la tour. On avait parlé de fierté, d'assurance de la jeune fille. Mais là, le roi, il est complètement intimidé. Il supporte plus que la Sulamite la regarde. C'est lui qui détourne le regard, tellement il est gêné de la situation. Il n'est pas parlé là qu'elle est méprisante ni hautaine, mais elle est ferme, elle est résolue dans ses sentiments, il y a de l'assurance, elle est stable devant le roi. Alors, au verset, fin du verset 5, verset 6, verset 7, il reprend. Et pour ceux qui étaient là déjà les semaines précédentes, vous avez pu remarquer qu'il reprend les mêmes les mêmes paroles pour décrire la Sulamite. Il parle de ses cheveux, il parle de ses dents, il parle de ses joues. Il reprend exactement les mêmes choses qu'il avait dit au chapitre 4. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est un manque d'inspiration de sa part, je ne sais pas. Mais au verset 8 et verset 9, là, il trouve une nouvelle inspiration et il va lui dire un compliment. Mais un compliment certainement qui aurait plu aux filles du harem. Mais vous allez vous apercevoir que ce compliment adressé à la Sulamite, c'est vraiment très déplacé. Très déplacé. Quel compliment est-ce qu'il dit entre le verset 8 et le verset 9? Il dit tout simplement ça. Il dit « Ah, j'ai plein de femmes, j'ai 60 reines, j'ai 60 concubines, sans compter toutes les jeunes filles. Mais toi là, oh, t'es au-dessus d'elles, toi t'es l'unique. » Imaginez un mari qui va dire « Ah, tu sais, hein, j'ai plein de maîtresses, mais toi, c'est toi que je préfère. » Alors peut-être que pour les filles du harem, c'était flatteur de s'entendre dire ça. Mais quand on connaît la Sulamite, quand on connaît ses valeurs, quand on connaît son intégrité, c'est une femme de valeur, c'est une femme de fidélité, s'entendre dire « Oh, tu sais, sur 150 filles, toi, t'es vraiment la meilleure. » C'est vraiment maladroit de la part de Salomon. Il est vraiment là, il est vraiment en train à la fois de révéler sa superficialité et il marque vraiment la différence parce que la Sulamite, elle est attachée à son bien-aimé, elle est fidèle quoi qu'il arrive. Alors s'entendre dire, tu sais, sur 150, toi t'étais vraiment la meilleure, c'est vraiment une sorte de maladresse un peu machiste. Hein. Verset 10, voilà qu'il dit « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore ?» Vous vous rappelez, au chapitre précédent, il avait fait ce parallèle « Qui est cette jeune fille qui monte dans le désert ?» Et on sait que ça parle de la Sulamite. Et il dit « Belle comme la lune, pure comme le soleil. » En fait, je pense que quand Salomon parle ainsi, il est en train de rappeler le contexte de leur première rencontre. Effectivement, c'est à l'aube, c'était en matinée, on l'avait eu l'occasion de le voir, que la première rencontre s'est faite. Vous savez, c'est pourquoi lune, soleil, parce que c'est à l'aube, d'entendre, on arrive à voir à la fois le soleil et à la fois la lune dans le ciel. Et donc, en fait, il rappelle cette circonstance-là. Qui est belle? Qui apparaît? Elle est belle comme la lune, elle est pure comme le soleil. Et il est fort probable que Salomon rappelle le contexte de leur première rencontre où la Sulamite était descendue voir la vigne, c'est ce qu'elle décrit après, et que lui, Salomon aussi, était dans le cortège royal, et voyant cette jeune fille à l'aube belle, il s'était effectivement posé cette question, mais qui est cette charmante créature, qui est cette beauté qui est là dans la nature? Et d'ailleurs, c'est confirmé parce que la Sulamite prend tout de suite la parole et elle répond à cette interrogation. Elle répond en expliquant les circonstances de leur rencontre. Alors, on avait déjà eu l'occasion de voir la chose, parce que c'est le nœud, c'est l'explication à tout le poème. Et donc, en paraphrasant, la Sulamite dit « Je descendais au jardin pour vérifier les plantations. » Ben oui, c'est une paysanne. Donc, c'est son métier, c'est son devoir que de vérifier les plantations, de vérifier la vigne, de vérifier les grenadiers, de vérifier si la vallée a été bien arrosée. Mais je me laissa séduire, pousser, entraîner par le désir à suivre le cortège royal. Et en fait, là, pourquoi est-ce que vraiment ce passage il est très important? C'est pour ça que le chapitre 6, c'est également tout le dénouement. Parce que, alors nous, on avait déjà commencé à expliquer toute cette histoire et on avait vu ce verset-là. Mais en fait, jusqu'à maintenant, on ne comprend pas. Si on n'avait pas eu le temps avant d'étudier la chose, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas comprendre comment la Sulamite pouvait se retrouver dans le harem. Et donc, à ce moment-là, elle explique « Mais oui, j'étais descendu voir les plantations, et puis je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, mais mon désir m'a rendu semblable, m'a porté vers les chars de mon peuple. » Et là, en fait, c'est là que quelque part, elle répond à la phrase du roi Salomon, mais qui est cette jeune fille? Et elle répond, bah oui, je me rappelle. Alors, en français, on se rend pas compte. D'ailleurs, les auteurs ont voulu rendre le texte le plus limpide possible. Mais en hébreu, ce passage-là marque vraiment quelque chose de fort, parce que les phrases sont faites de manière décousue, comme si la jeune fille parlait en bégayant. Comme pour marquer le fait qu'elle est en train de faire un aveu. Elle reconnaît qu'effectivement, je suis cette jeune fille, je suis descendue. Elle est en train de reconnaître qu'elle a fait une faute, et une faute qu'elle n'aura pas dû faire. Et vous savez, quand on est un peu comme ça, en train de faire des aveux devant une situation où on sait qu'on est fautif, on a la voix un peu hésitante. Et c'est complètement ça. Ça ne se rend pas trop compte dans le texte français, mais c'est vraiment là qu'il faut comprendre qu'effectivement, là, on comprend toute la clé du poème. Cette jeune fille, elle s'est laissée entraîner. Alors, je rappelle un petit peu le contexte quand même. On avait vu que effectivement la jeune fille s'était laissée entraîner par la beauté du cortège, par les jeunes filles qui louaient le roi, par la beauté du roi, par tous les soldats qui étaient là. Il y avait une prestance, il y avait une gloire. Et elle, jeune fille de la campagne, elle s'est laissée comme attirée, amorcée, séduite par toute cette beauté du beau monde, du monde royal. Et c'est comme ça qu'elle-même, elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur. Je me suis laissée emporter. Nous continuerons avec le chapitre 7 la semaine prochaine, mais voyons quelques leçons que l'on peut tirer de ce passage-là. Parlons avec le verset premier de la force du témoignage. Vous rappelez-vous les filles du harem qui se moquaient de la jeune fille, mais toi t'as rien compris là, ton bien-aimé il vaut rien du tout, et puis tout compte fait, elle commence à s'intéresser à lui, mais qui est ton bien-aimé? Et tout compte fait, elle fit, mais on va chercher ton bien-aimé avec toi. Ne nous lassons pas de témoigner du Seigneur. Amen. Bien sûr, il y aura des gens pour se moquer de nous. Bien sûr, on va nous prendre de haut. Bien sûr, on va nous dire qu'on est complètement barge. Bien sûr, les gens vont se moquer. Ils vont dire, mais toi, laisse tomber, là, ton Jésus, là, il fait quoi dans ta vie? Mais plus nous serons fidèles au Seigneur, et plus les gens verront de la manière dont nous en parlons, de la manière dont ils le représentent. Allez, on ne va pas reprendre toute la description, mais relisez-la à la maison, toute la gloire, la sagesse, l'amour que l'on trouve dans le Seigneur Jésus. Et plus les gens vont finir par se dire, mais c'est bizarre quand même. Depuis des années qu'il est fidèle au Seigneur. Tout le temps, il me parle de lui comme étant sa force, son soutien. Et il dit ceci, il fait les expériences. Et vous savez, les gens, bien sûr, la première réaction, c'est de se moquer de nous. Mais continuons à parler du Seigneur Jésus. Amen. Pas forcément de l'Église, pas forcément de nous-mêmes, pas forcément de ce qu'on comprend, de ce qu'on ne comprend pas, mais parler de la beauté du Seigneur. Et ça, de la force. On voit le cœur de ces jeunes filles qui changeait. Oui, et puis, notre désir, c'est que les gens cherchent Jésus avec nous. Amen. On va le chercher. Bah oui, venez avec nous. Venez chercher Jésus avec nous. Mais là aussi, c'est une leçon pour nous. Invitons les gens à venir chercher Jésus avec nous. Invitons les gens à venir avec nous dans les activités, dans les programmes de l'Église. Cherchons, nous voulons venir, nous le chercherons avec toi. Et bien sûr, si les gens veulent trouver Jésus, ils vont le trouver où? Bien sûr, ils vont le trouver dans l'intimité, dans leur cœur, mais ils vont le trouver aussi étant avec nous. Qui a institué l'Église? C'est Jésus. Qui a dit qu'il ajoutait chaque jour à l'Église les âmes qui étaient sauvées? Il ne les a pas installés seulement dans leur chambre, il les a fait joindre à l'Église. Et c'est notre responsabilité, oui, de dire, venez chercher Jésus avec nous. D'où l'importance d'inviter les gens à l'Église, de les inviter dans les différents programmes, les différentes activités. Ceux qui passeront avec nous rencontreront le Seigneur Jésus. Et nous aussi, apprenons à les accueillir et les encourager à se joindre à nous. Le verset 2. Quand on voit effectivement que cette Sulamite change de langage, jusqu'à maintenant son bien-aimé était loin, 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 et puis là, elle est en train de parler. Cette rencontre n'est pas encore faite, mais dans son cœur, on a l'impression que c'est déjà fait. Notre Seigneur revient bientôt, amen. Et que dans notre cœur aussi, on s'attende à ce retour, amen. Que nous ne soyons pas de ces vierges folles hein, qui croient que oui, il va venir, mais tout compte fait, on va s'endormir quand même. Le Seigneur revient, il est à la porte, amen. Alors à la porte dans 50 ans, je ne sais pas, mais que dans notre cœur, il y ait cette attente, une attente réelle du retour de Jésus. verset 4, verset 5, nous parle de la force de la résistance. C'est incroyable de voir comment le roi lui-même, il est décontenancé devant la Sulamite, devant une pauvre bergère qui a pas de force, qui n'a... Mais comment ça se fait qu'un roi, le roi Salomon, commence là à se sentir mal à l'aise devant la Sulamite ? Lui qui est chef d'armée, lui qui a tous les hommes, toutes les femmes de son royaume, il a juste à claquer des doigts et tout est à lui. Et bien devant la résistance d'une femme, il se sent complètement démuni. Et c'est aussi notre force. Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Dans le temps, notre force n'est pas dans le fait d'avancer. Dans le temps, notre force, elle est dans le fait de résister. Résister à la tentation, résister aux mensonges, résister à rentrer dans des compromis, refuser d'abandonner, refuser de critiquer, refuser de rentrer dans les médisances, refuser de cautionner le mal. De temps en temps, notre seule force, ce ne sera pas de changer la vapeur, de changer les circonstances, mais de temps en temps, notre seule force sera celle de résister. Seigneur, apprends-moi à résister, à ne pas me laisser embarquer, à ne pas me laisser séduire. Verset 8, verset 9. Ben oui, l'amour est exclusif. L'amour n'est pas question de flirt ni de partage sentimental avec diverses personnes. Une sorte d'hésitation avec un goût à la diversité. Oh, tu sais, entre 150, c'est vraiment toi la meilleure. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. C'est du désir. Mais ce n'est pas de l'amour. Et quelle tristesse. Quelle tristesse d'entendre des jeunes gens souffrir. Parce qu'ils ont donné leur cœur à quelqu'un et cette personne, elle joue avec ses sentiments. Ah oui, mais je t'aime, mais tu sais, j'hésitais avec un tel. Oh, jeunes gens, arrêtez, lâchez tout. S'il y a de l'hésitation dans le cœur, si l'autre personne vous fait chanter en vous faisant croire qu'il t'aime et qu'il l'aime aussi une autre personne, c'est que c'est pas l'amour que Dieu a, c'est pas le vrai amour, c'est pas l'amour de votre conjoint, c'est pas l'amour de votre élu. Et tant de souffrance en temps il y a dans des cœurs qui sont là, hésitants, à ne pas savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. L'amour est exclusif. Amen. On aime une personne et c'est à elle qu'on s'attache. On se décide de l'aimer et on ne fait pas des comparaisons. On ne fait pas là des systèmes de pesage. Est-ce que toi t'es comme ci, est-ce que t'es comme ça? Non, l'amour est exclusif. Et c'est à cela que nous devons rechercher et apprendre aussi à nos jeunes gens, comme tous les autres conseils qui sont donnés dans le Cantique des Cantiques, à bien discerner entre le désir et l'amour, entre ce qui est un amour vrai et ce qui est juste un érotisme passager. Et puis, on terminera avec cette dernière leçon, avec le nœud du drame, verset 11 à verset 12. Donc, on a bien compris, hein, j'espère, la scène. La jeune fille qui était une simple paysanne était descendue, elle était vérifiée la campagne et puis en voyant le cortège royal, elle s'est laissée séduire au fond d'elle-même. Et ça fait penser, et c'est parce qu'elle s'est laissée séduire qu'elle s'est laissée entraîner après, qu'elle s'est retrouvée dans le harem. Et rappelez-vous même que le roi avait tellement insisté qu'ils avaient même fait les noces, les fiançailles. Vous vous rappelez comme la pression était dure et même à un moment il voulait l'embrasser. C'était wow, c'était chaud. Pourquoi ? Juste parce qu'à un moment, elle ne sait pas pourquoi, dans son cœur, elle s'est laissée entraîner par ce désir, la beauté du roi, la beauté du cortège. Et elle le reconnaît. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais mon désir m'a rendu semblable. Jacques, chapitre 1, verset 14, nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Si nous résistons au diable, le diable n'a pas de prise sur nous. Mais si dans notre cœur, il y a une petite faille, une petite faiblesse, soyez certain que le diable sera là pour utiliser cette faiblesse. Soyez certain que lui, là, il rôde, il observe. Et si quelque part dans le cœur, il y a une petite tentation, un petit désir, un petit laisser-aller, un petit péché mignon, comme dit le monde, ce qui est mignon devient terrible. D'ailleurs, elle-même, elle le dira, elle parlera de ces petits renards qui abîment la vigne. Ça paraît insignifiant, on le garde pour nous. Et il y a dans la Bible comme ça des gens qui ont perdu cher. Rappelez-vous de Judas. Il a fini comment ? Pendu. parce que l'amour de l'argent, c'était, il avait laissé cette cupidité dans son cœur. Il a trouvé une occasion là de vendre son maître parce qu'il n'avait pas réglé cet amour de l'argent. Salomon, on l'a déjà vu. Et on l'a vu aussi dimanche dernier. Salomon qui avait reçu une sagesse pas croyable. Et voilà que Salomon, il avait un problème avec les femmes. Et c'est à cause de cet amour pour les femmes qu'il a fini misérablement et que Dieu a été en colère contre lui. Il nous est parlé de Démas, qui a abandonné la meilleure équipe pastorale qui pouvait exister sur cette terre, l'équipe de Paul avec tous les autres. Démas qui m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Faisons attention. Le cantique, et la Bible ne nous présentent pas tous les croyants comme étant des gens parfaits, inébranlables. On a tous nos failles, on a tous nos faiblesses. Mais soyons conscients que nos failles et nos faiblesses, on doit les colmater. On ne doit pas jouer avec. Ne croyons pas que oh, c'est un petit rien, c'est un petit péché, je maîtrise. Tôt ou tard, on ne maîtrise plus rien. La Sulamite, jamais elle aurait pu imaginer qu'elle finirait dans le harem, entourée de tant de filles, et avec l'oppression du roi, qui était en train de la forcer à se marier, et de chercher à la toucher, à l'embrasser. Jamais elle a pu imaginer ça, lorsqu'elle était là, juste en train de se laisser émerveiller par la beauté du cortège royal. Et faisons attention. Il y a une phrase qui dit que quand on joue avec le péché, on devient le jouet du péché. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Quand on laisse des petites affaires, oh, c'est rien. Bah si, c'est rien au début. Mais si on ne règle pas le problème tout de suite, ce petit rien peut devenir mortel. Alors que nous aussi, nous veillons. Récemment, j'entendais le témoignage de... discuter avec une jeune fille qui avait rencontré le Seigneur, elle était remplie du Saint-Esprit, elle connaissait elle avait toujours connu l'Église, mais là, elle avait connu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, baptême de l'Esprit, elle commençait à avoir une vie de prière avec intensité, elle aimait lire la parole de Dieu, et puis elle me racontait tout ça, et puis quelques mois après, elle m'a dit, tu sais Benoît, j'aimais bien, j'avais pris des résolutions avec le Seigneur, j'avais commencé à mettre du temps à part pour prier, pour chercher la face de Dieu, et puis à un moment, je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai senti que dans ma vie spirituelle, ça s'était attiédi. Et après, elle a sait pourquoi. C'est parce qu'elle avait pris une décision avec le Seigneur, je ne sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, elle avait décidé de réserver une partie, une heure ou deux, à chercher la face de Dieu. Et puis petit à petit, ce petit temps qu'elle avait consacré au Seigneur, on le fait, elle a commencé à lire un bouquin et puis à regarder une émission télé et puis elle s'est aperçue quelques mois après, sans s'en rendre compte, que le temps qu'elle avait réservé au Seigneur avait été finalement pris, occupé par d'autres choses et que ça avait atténué son feu pour le Seigneur. Ces petites choses qui paraissent rien, insignifiantes, que nous soyons vigilants comme la Sulamite. Mais il vaut mieux se repentir, dire de pardon au Seigneur Jésus. Parce que la suite de l'histoire nous montre que cette jeune fille sera libérée de sa situation, justement. Parce qu'elle aura pris conscience de la chose, parce qu'elle aura gardé les yeux fixés sur son bien-aimé, parce qu'elle aura résisté au diable, parce que les gens tout autour réalisent son positionnement spirituel et elle connaîtra cette libération. Amen.